Vous écoutez Envers et contre tous. Swing et Prohibition, deuxième partie.
Jason Durand, Amaury Perrard. Yes, we can.
Bonjour et merci d'écouter ce quatrième épisode de Envers et contre tous, intitulé Swing et Prohibition, partie 2. Nous avions vu lors de la première partie la période swing et l'émergence des big bands. Aujourd'hui, nous verrons le vocal jazz. Bien entendu, je suis avec mon collègue Amaury.
Bonjour.
Et comme prévu, nous sommes restés ici, dans le quartier de Harlem. Pendant la période swing, apparaît de grandes chanteuses. L'une des premières est Bessie Smith et nous venons de lancer sur notre vieux tourne-disque son morceau Down Hearted Blues. Il s'agit là de son premier enregistrement chez Columbia. Élevée par une famille d'une pauvreté extrême, Smith commença très tôt à gagner sa vie en chantant dans les rues avec son frère Andrew. Elle est l'une des artistes afro-américaines parmi les mieux payées des années 20 et enregistrera 123 chansons pour Columbia, des blues pour la plupart. Le soir du 26 septembre 1937, Smith a un tragique accident d'automobile en traversant Clarksdale dans le Mississippi. Elle a un bras à moitié arraché. Grièvement blessée, Bessie est transportée à l'hôpital afro-américain G.T. Thomas où elle est amputée du bras droit et décède dans la matinée suivante. La légende dit qu'elle aurait été transportée dans un hôpital réservé aux Blancs et que le personnel ne l'aurait pas acceptée, elle serait finalement décédée d'une hémorragie. Le docteur Smith, chirurgien de Memphis et témoin de l'accident, estime dans une biographie de la chanteuse que l'ambulance qui a évacué Bessie Smith ne serait jamais allée dans un hôpital blanc et que dans le sud, à cette époque, aucun conducteur d'ambulance ou conducteur blanc n'aurait seulement songé à mener une personne de couleur dans un hôpital pour les blancs. On vous rappelle donc le climat social de l'époque qui est celui de la ségrégation, qui rejette les Afro-Américains et leur donne accès aux services les plus vétustes. Bessie Smith aura eu une influence musicale importante et sera une source d'inspiration pour les grandes chanteuses de jazz.
Oui, comme par exemple Billie Holiday, également appelée Lady Day, qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses que le jazz ait connue. Née le 7 avril 1915 à Baltimore, elle connaîtra une jeunesse misérable où elle sera violée et battue. Elle arrive en 1927 à New York où elle se prostituera pour survivre. Cette vie terrible se ressentira énormément dans ses chansons, bien souvent dramatiques. Accentuée par sa voix légèrement rauque, cassée et son jeu tout en vibrato, elle s'appuiera très fortement sur les émotions, essayant de transmettre toute sa tristesse et son malheur. Elle sombrera très rapidement dans les drogues et l'alcool, et d'ailleurs les dernières images que l'on a d'elle nous montrent un corps amaigri et rongé par les substances. Elle rejoindra l'orchestre d'Artie Shaw, mais malheureusement un orchestre de blancs qui accompagne une chanteuse noire est vraiment impensable à cette époque, et surtout dans les États du Sud. Malgré la volonté d'Artie Shaw de la faire accepter par le public, elle quittera l'orchestre sous la pression. L'un de ses plus célèbres morceaux est Strange Fruit. Ce morceau témoigne des actes de haine raciale dans les États du Sud et plus particulièrement des actes de pendaison d'Afro-Américains qui ont toujours lieu. Il provoquera une réelle émotion mais aussi un très grand scandale. Un soir du printemps 1929, Abel Meeropol, un petit prof de lycée poète à 16 heures, se rend au café du Society Club où Billy répète avec son orchestre. Abel tend un papier au propriétaire de ce nouveau club branché, ce sont les paroles de Strange Fruit. Le propriétaire du club, saisi par l'émotion du texte, court le montrer à Billie Holiday qui veut alors chanter ce bijou le soir même. Son interprétation déchirante ce soir-là fera grand bruit et le succès est tel que l'on réclame très rapidement un enregistrement. Presque toutes les radios préféreront cependant l'ignorer, trop frileuses pour promouvoir cette gifle aux assassins. Billie connaîtra même quelques incidents sur scène avec des personnes du public outrées. Rien n'y fait, le bouche-à-oreille fonctionne et on s'arrache le disque. Le Time Magazine décernera 60 ans plus tard le prix de chanson du siècle à ce morceau que l'on écoute tout de suite.
«
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Strange Fruit, interprété par Billie Holiday. C'est donc une chanson très engagée qui est une véritable dénonciation du lynchage des Noirs dans les États du Sud qui a encore lieu à son époque. Voici un extrait traduit du morceau. Les arbres du Sud portent un étrange fruit, du sang sur les feuilles et du sang aux racines. Un corps noir qui se balance dans la brise du Sud, étrange fruit suspendu au peuplier. Scène pastorale du valeureux Sud, les yeux exorbités et la bouche tordue, parfum de malolia doux et frais, puis l'odeur soudaine de chair brûlante. C'est un fruit que les corbeaux cueillent, que la pluie rassemble, que le vent aspire, que le soleil pourrit, que les arbres lâchent. C'est là une étrange et amère récolte. Il nous faut aussi rappeler l'incroyable duo qu'elle forme avec Lester Young, son âme sœur musicale qu'elle surnomme 13.
Alors il est temps de faire une petite parenthèse sur les surnoms. Une vieille tradition qui consiste à s'attribuer des nicknames en signe d'appartenance à la communauté. Certains sont la simple contraction de leur prénom. Chet pour Chesney Baker, Train pour John Coltrane, Bix pour Léon Bismarck Bederbeck. D'autres sont hérités de l'enfance comme Julian Cannonball Adderley, que l'on surnommait à l'école Cannibal pour son énorme appétit. Ce surnom se transforma ensuite en Cannonball, en référence à son jeu percutant au saxophone, ses notes étaient comme des boulets de canon. Ou encore Fletcher Anderson, appelé Smack depuis le lycée, quand Fletcher dormait, sa bouche produisait des bruits de baiser. D'autres héritèrent de leur prénom à cause de leur aspect physique. Thomas Wright Fats Weller, pour son embonpoint. Milt Bags Jackson, pour ses poches sous les yeux. Tandis qu'Armstrong, la bouche déformée par sa trompette, récolta son célèbre Satchmo, contraction de Satchel Mouth, bouche en forme de sac. John Birks, Dizzy Gillespie, à cause de ses clowneries perpétuelles et de sa virtuosité qui finissait par donner le vertige. Alors il y a aussi les aristocrates. Le premier fut Joe King Oliver, l'un des pionniers du jazz couronné roi. Puis vient Edward Kennedy Duke Ellington. Adolescent, un camarade lui avait donné le surnom de Duke, car il avait déjà une élégance naturelle. Bird, pour Charlie Parker, alors rien de poétique ici, hein. Il adorait tout simplement le poulet, Yardbird signifiant oiseau de basse-cour. Un jour qu'il roulait avec d'autres musiciens, sa voiture écrasa un poulet. Parker fit faire demi-tour au chauffeur, ramassa le volatile et une fois arrivé à la pension qu'il occupait, demanda à la cuisinière de le faire cuire. Enfin, pour en revenir à Lester Young, ou Prez, surnom choisi par Billie Holiday, il lui a été attribué car on disait à l'époque que seul le président Roosevelt était un homme aussi grand que lui. Après le sombre et incroyable morceau Strange Fruit, réchauffons-nous avec When You're Smiling, interprété par Billie Holiday et Lester Young.
Toujours sur Radio Déclic 106.3 et on vient d'écouter When You're Smiling, interprété par Billie Holiday et Lester Young. Alors nous avons vu lors de la première partie de cet épisode l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis. Pendant celle-ci, pour fuir les États du Sud racistes, les Afro-Américains continuaient d'affluer dans les villes du Nord et de l'Ouest. Les nouveaux arrivants débordaient même sur les quartiers blancs et la tension montait. Pendant l'été 1943, de sanglantes émeutes avaient éclaté et à Détroit, les combats de rue firent 34 morts dont 25 noirs. Les mêmes scènes se répétèrent à Los Angeles. Il a fallu des émeutes raciales dans 5 grandes villes pour réveiller l'Amérique blanche au danger d'un conflit racial. Il a fallu une émeute à Harlem pour apprendre aux Noirs américains que l'intolérance raciale n'est pas d'un seul côté de la barrière et qu'une émeute noire est en tout point aussi bestiale et aveuglément destructrice qu'une foule blanche. C'est une citation de Lester Granger, leader noir de la National Urban League. Les forces alliées ayant vaincu le totalitarisme nazi, les soldats rentrèrent au pays pour continuer la lutte. De plus en plus de Noirs abandonnèrent l'étiquette « colored », donc de couleur, que leur avait infligé l'homme blanc. Cette guerre n'avait pas inventé la protestation noire, mais elle avait sans nul doute contribué à l'étendre et à l'intensifier. Et pourtant, aucune victoire militaire ne pouvait ébranler la résolution de la société sudiste à maintenir le noir à sa place. Le retour de ces hommes de couleur habitués au maniement des armes, animés d'une conscience nouvelle de leurs droits et plus grave encore, qui avaient certainement goûté au charme des européennes, était perçu comme une menace insupportable. Attaques et lynchages furent donc monnaie courante pour ces soldats de la démocratie, et Isaac Woodward, un vétéran qui rentrait chez lui à bord d'un bus traversant la Caroline du Sud, fut si sauvagement battu par la police qu'il en resta aveugle. Le rapport annuel de la NAACP, en français, l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur qualifia l'année 1946 d'une des plus sombres.
Alors, on ne peut pas parler de chanteuse de jazz sans évoquer la célèbre Ella Fitzgerald. Elle est l'antithèse de Billie Holiday avec sa voix puissante et énergique. Elle va considérablement faire évoluer l'art vocal. Elle développera beaucoup l'art du scat, qui consiste en une improvisation vocale faite d'onomatopées. Elle sera la grande complice de Louis Armstrong. On écoute tout de suite un morceau de son live à Berlin, How High the Moon, interprété par Ella Fitzgerald. High, high the moon, it's the name of the song.
stars for you. How high the moon does it touch the stars? How high the moon does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, 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 high is the moon. Ooh, beauty, 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 beauty,
Encore du très bon son dans Envers et Contre Tous avec I've Got So Much To Shout About des Dixie Hummingbirds. Pour conclure, malgré la lutte des soldats, des intellectuels et des artistes, la ségrégation était toujours en place. La communauté afro-américaine manifeste de plus en plus fort leur indignation et leur malaise. Ils ne comptaient plus que sur eux pour obtenir leurs droits. Cet épisode est terminé, soyez au rendez-vous dans 2 semaines, on va faire saigner vos oreilles avec une nouvelle génération de musiciens qui vont donner naissance à de nouveaux courants musicaux. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur www.associationdeclic.org. Retrouvez aussi la podcast en version longue sur Facebook et SoundCloud. Le swing connaît aujourd'hui un regain de popularité avec l'électro-swing qui, comme son nom l'indique, est un mélange de musique électronique et de swing. On finit donc cette émission en musique avec le morceau Booty Swing de Parov Stellar. À dans 2 semaines sur 106.3 et surtout, écoutez du bon son.